VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous. 11h, temps universel. Le ministre kényan de l'Intérieur a interdit les manifestations dans le centre des trois principales villes du pays, Nairobi, Mombasa et Kisumu, théâtre ces dernières semaines de rassemblement de l'opposition en amont de l'élection présidentielle du 26 octobre. Le gouvernement a évoqué la menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public lors d'une conférence de presse. Dans un climat politique tendu, l'opposition a organisé des manifestations dans ces trois villes ces dernières semaines pour protester contre la commission électorale, l'AIBC, chargée d'organiser le scrutin du 26 octobre après l'invalidation en justice de la réélection du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle du 8 août. Au Cameroun, après les troubles meurtriers de ce mois, dans les deux régions anglophones du pays, de nouveaux appels au dialogue ont été lancés pour mettre fin à une crise qui dure depuis presque un an. Le gouvernement maintient sa ligne dure face au mouvement séparatiste. Reportage Moki Edwin Kinzeka, récit Nathalie Bage.
Les groupes de défense des droits humains disent que la répression gouvernementale dans les deux régions anglophones du Cameroun continue d'alimenter les tensions. Cela fait près d'un an que des militants des deux régions anglophones se mobilisent pour une plus grande autonomie. Certains réclament l'indépendance. Pierre Baldiguel, leader de l'UPC, le plus ancien parti politique du Cameroun, pense que le gouvernement devrait amener tous les acteurs autour d'une table. Il y a trois types d'acteurs. Les gens qui veulent la sécession, qui veulent créer leur propre État, les gens qui veulent revenir au fédéralisme et ceux qui veulent rester dans un État uni, décentralisé. Le président Paul Biya n'a pas exclu le dialogue, mais il a déclaré que le Cameroun est un État indivisible. Les troupes sont restées déployées à la suite de manifestations pour l'indépendance dans les zones anglophones le 1er octobre. Au moins 17 personnes ont été tuées par les forces de sécurité, selon Amnesty International. Le gouvernement dit que des enquêtes sont en cours sur la conduite de l'armée. Cependant, les autorités ont rejeté les appels lancés par les dirigeants chrétiens pour libérer les détenus et abandonner les poursuites contre des personnes en exil afin d'apaiser les tensions et d'ouvrir la voie au dialogue. Le porte-parole du gouvernement, Issa Tshiroma, a déclaré que les groupes qui préconisent des réformes de l'État devraient utiliser le processus politique.
Let SCNC form a political party.
Que le SCNC forme un parti politique. Nous sommes d'avis qu'une grande majorité de notre population, de notre peuple, voudrait revenir au fédéralisme. Comment pouvez-vous le savoir si vous ne consultez pas les gens par la voie des urnes ? Un retour au fédéralisme a été parmi les réformes proposées par les enseignants anglophones et les avocats pendant leur grève en novembre dernier. La crise s'est aggravée au fur et à mesure que les groupes séparatistes ont commencé à réclamer l'indépendance totale. Mais la question centrale reste la même, à savoir la présumée marginalisation des anglophones. Verkijika Fanso, professeur d'histoire à l'université de Yaoundé, recommande un dialogue ouvert suivi d'un référendum dans les régions anglophones. Comment appelle-t-on un terroriste qui n'a pas d'armes, qui marche avec des branches d'olivier? Ce n'est pas parce que certaines personnes disent vouloir une autre forme d'État qu'il faut les chasser, les arrêter et les emprisonner. Un référendum semble peu probable. Il doit être demandé par le président et la dernière fois que le Cameroun a tenu une consultation populaire, c'était en 1972.
Le ministre zambien de la Justice, Jiven Lumbida, a annoncé hier l'expiration de l'état d'urgence proclamé il y a trois mois à la suite d'une succession de troubles attribués par le gouvernement à l'opposition. John Lindon.
Le président Edgar Lungu avait déclaré en juillet l'état d'urgence validé par le Parlement après plusieurs incendies criminels destinés selon lui à créer la terreur. Cette déclaration a expiré selon Jiven Lumbida, le ministre de la Justice qui s'est exprimé hier devant les députés à Lusaka. Il a mis en garde les individus tentés de profiter de la fin de cette mesure pour fomenter des troubles, appelant ses concitoyens à continuer d'être patriotes, pacifiques et d'obéir à la loi. Les autorités zambiennes ne comptent pas prolonger l'état d'urgence, une disposition dénoncée à l'époque par l'opposition. Principale cible du gouvernement, le Parti uni pour le développement national avait nié toute implication dans des incendies, dont celui qui avait ravagé le principal marché de Lusaka début juillet dernier. La Zambie a connu une relative stabilité jusqu'aux élections d'août 2016, remportées de justesse par M. Lungu, qui avait dévancé Hakainde Hichilema de seulement 100 000 voix. Ce dernier refuse toujours de reconnaître la victoire de son rival.
La justice nigériane a ordonné la saisie définitive de 4 propriétés appartenant à l'ex-ministre du pétrole d'une valeur de 7 millions de dollars que les juges soupçonnent de provenir de détournements massifs de fonds publics. La décision prise mercredi par la Haute Cour fédérale de Lagos concerne des résidences dans plusieurs villes du pays, Lagos, Abuja et Port-Harcourt, appartenant à l'ex-ministre Dizani Alison Madueke, la cible de nombreuses enquêtes et saisies de propriétés ordonnées par la Commission des crimes économiques et financiers.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Libéria retient son souffle. Les premiers résultats de la présidentielle prévus pour être rendus publics mercredi ont été repoussés à aujourd'hui. La Commission électorale nationale, la NEC, a invoqué des défaillances en matière d'organisation. Après le vote de mardi, marqué par une forte participation, l'incertitude demeurait notamment sur la tenue d'un éventuel second tour si aucun des 20 candidats ne l'emportait dès le premier. Les deux favoris, le sénateur George Weah, légende du football africain, et le vice-président sortant, Joseph Boakai, semblaient néanmoins se détacher selon des résultats partiels provisoires diffusés par les radios. Le Burkina Faso commémore dimanche les 30 ans de l'assassinat de Thomas Sankara, icône de la révolution d'une jeunesse se voulant panafricaine, fauchée à 38 ans seulement. Procession, sit-in, colloque, exposition ou lancement d'une souscription pour ériger un monument au Che Guevara africain seront les temps forts de cette célébration. Sankara, capitaine âgé de 33 ans à l'époque, a fait irruption au sommet de l'État burkinabé en 1983 à la faveur d'un coup d'État qui se voulait progressiste. Il a débaptisé son pays de son nom colonial, Haute-Volta, pour le renommer Burkina Faso, pays des hommes intègres. Le Hamas et son rival palestinien du Fatah sont parvenus à un accord après 2 jours de discussions menées à huis clos au Caire en Égypte et censé concrétiser donc une réconciliation annoncée la semaine passée, a indiqué le mouvement islamiste dans un communiqué aujourd'hui. Le bureau du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, qui a annoncé cet accord, n'en a pas livré les détails. Une conférence de presse est prévue en milieu de journée au Caire, a indiqué une source au sein du Fatah.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h08. Scandale sexuel à Hollywood, de nouvelles accusations contre le producteur américain déchu Harvey Weinstein continuaient de déferler à Hollywood et ont déclenché un grand déballage visant les pratiques d'abus sexuels de ce haut lieu du cinéma. Harvey Weinstein, âgé de 65 ans, est accusé de viol par 3 femmes, dont la star italienne Asia Argento, et de harcèlement sexuel envers de jeunes actrices, mannequins et employées depuis les années 1990. Le mis en cause a répondu par porte-parole interposée que les relations sexuelles publiquement révélées étaient consenties. Réunion informelle demain vendredi à huis clos du Conseil de sécurité sur la Birmanie, avec la participation, selon des diplomates, de l'ex-patron de l'ONU, Kofi Annan, auteur d'un récent rapport sur les Rohingyas. La réunion qui est prévue dans la soirée à New York doit porter sur la situation dans l'État Rakhine, dans l'ouest de la Birmanie, et celle des réfugiés. Il s'agira aussi de voir comment la communauté internationale peut soutenir la mise en œuvre des recommandations de la commission consultative qu'avait présidée M. Kofi Annan. On signale que le secrétaire général adjoint de l'ONU, l'Américain Jeffrey Feldman, arrivera demain vendredi en Birmanie pour une visite de 4 jours. Et puis Madrid a donné au président séparatiste catalan Carles Puigdemont jusqu'au 19 octobre pour revenir sur sa déclaration de dépendance en enclenchant un compte rebours avant d'utiliser l'arme de la suspension de l'autonomie de la Catalogne. Jean-Roger Billon, fin de ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.